France Inter. Bonjour, bienvenue dans le débat de midi. Très heureuse de vous retrouver pour un nouveau débat. Et aujourd'hui, nous sommes dans une forêt où des dizaines d'hommes courent tout nus, torches à la main, en pleine nuit. Ce n'est pas une scène de film préhistorique. Nous sommes en 2025 à un stage de virilité. Loup alpha renoue avec ta masculinité sacrée. Sois un nouveau guerrier. Laisse exploser ta puissance, ta testostérone. On veut un homme debout. Au programme du week-end, redevenir un mâle, un vrai. Ces groupes masculinistes sont en plein essor. Ils ont fait l'objet d'enquêtes pour dérives sectaires. Ils défendent le fait que l'homme souffre depuis l'émancipation des femmes. Selon le haut rapport annuel du Haut Conseil à l'égalité, 37% des hommes se sentent menacés par le féminisme. 45% des moins de 35 ans estiment qu'il est difficile aujourd'hui d'être un homme dans la société actuelle. Et sur Internet, toute une manosphère prolifère. Influenceurs virilistes qui se filment en train de manger de la viande, coach en séduction, aux conseils un peu réactionnaires ou récits de femmes au foyer heureuses de laisser leur mari commander. Fin juin, un jeune de 18 ans a été arrêté dans la Loire car il projetait un attentat masculiniste. Alors comment expliquer l'essor de cette pensée ? Faut-il y lire une réponse au mouvement MeToo, une crise de la masculinité, voire la féminisation de la société ? La guerre des sexes aura-t-elle lieu ? Débat jusqu'à 12h45.
France Inter, le débat de midi, Paola Puerari.
Et pour ce débat sur l'essor de la pensée masculiniste, ces dangers, cette crise du masculin, vous êtes déjà très très nombreux à nous écrire sur le WhatsApp de l'émission, à vouloir vous emparer du débat au 01 45 24 7000, Fleur témoigne. Je suis hyper inquiète pour mon fils qui commence à avoir un discours méprisant envers ses copines, qu'il traite souvent de salope. Je ne sais pas ce qu'il regarde sur Internet, mais pour une mère progressiste et féministe, c'est terrorisant. Antoine a aussi son idée. On demande beaucoup aux hommes aujourd'hui, être compatissant, à l'écoute, s'occuper des bébés. Mais la vérité, c'est que les femmes aiment les hommes virils. Alors si, comme ces auditeurs, vous voulez réagir sur l'application France Inter, vous nous envoyez une note vocale, vous vous enregistrez au 01 45 24 7000 et nous, on lance le débat autour de la table, puisqu'il y a deux équipes. Alors, dans l'équipe, on peut dire, on déconstruit le patriarcat. Bonjour Rokhaya Diallo.
Bonjour.
Bienvenue dans ce studio. Merci d'être avec nous, journaliste, éditorialiste au Guardian, au Washington Post. Vous publiez un dictionnaire amoureux du féminisme aux éditions Plon. On aura l'occasion de revenir sur la définition de patriarcat. Yvan Jablonka, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historien, vous explorez les nouvelles formes de la masculinité. Vous êtes auteur de « Des hommes justes » aux éditions du Seuil. Et face à vous, j'ai nommé l'équipe qui trouve que le wokisme va trop loin et que l'ultra-féminisme, n'en parlons pas. Bonjour Thérèse Argot.
Bonjour.
Vous êtes sexologue, catho-compatible, si je puis dire, d'origine belge. Et à vos côtés, Pierre Valentin, bonjour.
Bonjour.
Essayiste, auteur de « Comprendre la révolution woke » chez Gallimard. Alors, tout de suite, on va revenir sur un chiffre, puis sur les réseaux sociaux, sur le réseau social TikTok, qui est le réseau social préféré des jeunes. Il y a plus de 200 000 vidéos, Rokhaya Diallo, qui utilisent le hashtag, le mot dièse, on dit en français, « mâle alpha ». Est-ce que vous pouvez nous dire à quoi ressemble cette manosphère sur les réseaux sociaux ?
Eh bien, effectivement, c'est une manosphère qui s'est répandue de manière assez endémique ces dernières années. Et elle correspond à l'expression d'hommes qui prétendent réinvestir une forme de masculinité qui aurait été perdue pour les jeunes hommes. Donc leur apprendre, en fait, d'une certaine manière, à s'emparer de critères traditionnels de la masculinité et aussi, surtout, à minorer les femmes, à apprendre. En fait, c'est vraiment, on investit aussi dans un registre de détestation des femmes, d'expression assez misogyne qui place les hommes en haut de l'échelle et qui considère que les femmes finalement sont indues dans ce qu'elles peuvent proposer sexuellement, dans l'accès que les hommes sont censés avoir d'elles-mêmes, de leur corps, et aussi l'idée selon laquelle certains hommes seraient victimes d'un système qui privilégierait qu'une minorité qui aurait accès effectivement à une sexualité comme si c'était un droit, et d'autres qui seraient victimes d'un système en fait qui les met de côté et qui leur permet pas justement d'accéder à cet endroit-là.
Alors, ces discours masculinistes, virilistes, vont forcément avec la misogynie, Thérèse Argaud ?
Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on voit tous ces hommes qui ont comme point commun d'avoir une énorme frustration. Ils n'arrivent pas à obtenir l'amour qu'ils voudraient des femmes, et donc ils vont user de différentes stratégies pour l'obtenir. Il y a une frustration très forte, une frustration sexuelle très forte, je pense que c'est important de le dire. Alors, une des explications parmi d'autres qu'on va explorer peut-être pendant toute cette émission, c'est aussi, il me semble, l'exposition des mineurs à la pornographie, c'est-à-dire qu'on a une génération d'hommes qui étaient biberonnés au porno, ça veut dire qu'ils ont eu accès à des images de femmes, au corps de femmes absolument superbes, mais en même temps complètement fausses, puisqu'elles sont, bah, tout est retouché, etc. Et en fait, ces jeunes garçons ont grandi avec l'illusion qu'ils auraient accès à ce type de femmes, parce que c'est ce que leur donne à penser la pornographie. Et puis, ils se rendent compte que dans la vraie vie, au collège, au lycée, ils n'ont pas accès aux plus belles femmes. Ils sont très frustrés, ils sont très en colère contre ces femmes qui se donnent pas à eux sexuellement. Et alors, ils vont cultiver une forme de ressentiment envers elles et aussi user de stratégies pour essayer de les séduire. Mais moi, je pense que c'est très important de comprendre cette génération élevée au porno qui sont des frustrés sexuels, et cette frustration se retourne avec une très grande violence sur les femmes.
Pierre Valentin, je vois qui est...
Non, bien sûr. Moi, j'avais étudié pour le journal Marianne la question du phénomène Andrew Tate. Donc, je le présente brièvement, mais c'est sorte de complotiste accusé de proxénétisme, poursuivi par la justice roumaine, qui a été d'ailleurs extradé récemment par l'administration Trump, et qui a plus d'abonnés Twitter que notre président de la République. Donc, en 2023, était la troisième personne la plus recherchée au monde sur Google, donc d'une influence absolument considérable, et qui, lui, s'est construit une espèce d'empire d'influence format gourou, qui, certes, est particulièrement misogyne et radical. Il dit, par exemple, que, c'est ma phrase préférée, « tomber amoureux d'une femme, c'est déjà être homosexuel ». Et il préconise, format développement personnel, de prendre 2 cafés avant de s'endormir, parce qu'il est bien connu que le battement cardiaque qui double fait que 4 heures de sommeil se transforme en 8 heures de sommeil. Et la première partie de son succès, il y avait les sondages YouGov au Royaume-Uni qui s'était penché sur la question, c'est pas d'abord son rapport aux femmes, c'est encore au-dessus de ça, sa conception du succès, du winner, du self-made man, qui est vraiment celle d'un personnage de jeu vidéo, le gros cigare, la musculation, l'argent jeté en l'air, et une conception à la fois dégradée et dégradante du succès, qui est parfaitement aplatie, deux-dimensionnelle et très, très américaine, très format GTA, qui est le jeu vidéo de ma génération de ce point de vue-là.
Alors il dit aussi, je pense que les femmes appartiennent aux hommes, les femmes sont comme des voitures, vous pouvez toujours en acheter une nouvelle, mais quand même garder les anciennes au cas où. Et effectivement, alors je précise quand même qu'il a été banni du réseau social Instagram, mais qu'il est suivi par 10 millions de personnes sur le réseau social X, qui appartient donc à Elon Musk. On va revenir et on va débattre justement de savoir si ce courant masculiniste a quelque chose de politique. Mais ça vient d'où, cet essor du masculinisme ? Est-ce que pour vous, Yvan Jablanka, c'est un balancier, un contre-mouvement en réponse à la révolution MeToo ?
Cette manosphère, pour moi, ce sont les nouveaux habits d'une pensée archaïque qui remonte au moins au XVIIIe siècle et qui est née au même moment que le féminisme, et qui consiste à préconiser un retour à l'ordre naturel, entre guillemets, dans lequel les hommes seraient dominants et les femmes, en quelque sorte, réduites à la sphère ancillaire ou à la sphère maternelle. Donc tout ce qu'on voit aujourd'hui autour des réseaux sociaux, des stages de retour à la au mal profond, musculation en ligne, enfin des choses comme ça, ce sont des formes, à mon sens, de néo-virilisme qui renvoie à l'identité masculine, mais au-delà, ça appartient à une réaction antiféministe qu'on voit encore une fois depuis facilement 200 ou 250 ans et qui fonctionne selon deux moments. Le premier moment, c'est de présenter les hommes comme des victimes, victimes du nouvel ordre dans lequel les femmes seraient les nouvelles maîtresses de la société. Et deuxièmement, cette victimisation masculine doit déboucher sur une revanche. Il est temps, disent-ils, que les hommes retrouvent leur place. Et cette revanche, enfin cet esprit de revanchard ou cet esprit de revanche, de vengeance, trouve une place dans des formes de radicalisation plus ou moins assumées. Alors ça peut être du cyberharcèlement en ligne, et puis ça peut aller jusqu'au projet d'attentat, comme on a vu, ou aux attentats bien réels, hein, comme on a vu au Canada ou plus récemment dans la région de Saint-Étienne.
Mais on voit bien les chiffres. quand même, Yvan Jablanca, 37% des hommes se sentent menacés par le féminisme. 45% des hommes de moins de 35 ans estiment qu'il est difficile d'être un homme aujourd'hui. Thérèse Argaud, est-ce que vous pensez que le féminisme a été trop loin et qu'effectivement, l'homme est un peu en difficulté?
C'est pas le féminisme qui va trop loin. C'est toujours important et essentiel de se battre pour que les femmes et les hommes soient égaux.
L'ultra-féminisme.
Alors, est-ce que ça existe, l'ultra-féminisme? Là aussi, je pense que c'est pas exactement le bon mot pour qualifier ce qui, les dérives. Les dérives, c'est quand on est dans une pensée très victimaire et revancharde. Et ça, on peut l'avoir quel que soit le camp. Et c'est cette pensée-là qui va détruire nos relations entre hommes et femmes. Et elles existent. On a vu ces ouvrages, et excusez-moi, il faut quand même en parler, de « Moi, les hommes, je les déteste », de Pauline Armange. On met de l'huile sur le feu. D'une certaine façon, l'ouvrage de Alice Coffin, de Génie Lesbien, où on peut lire des choses qui sont des grandes généralités sur les hommes en général, qui pourraient être potentiellement des violeurs, des agresseurs, ça met de l'huile sur le feu. Et c'est tous ces discours qui, à mon avis, ont abîmé les relations hommes-femmes au lieu de les réparer. Et donc, c'est vrai qu'il y a des hommes qui n'en peuvent plus de ces discours-là. Et je pense qu'il faut prendre un féminisme est inclusif. On inclut les hommes dans cette volonté de vouloir une relation plus apaisée et sereine entre les sexes.
Rokhaya Diallo. Je pense qu'il faut quand même rappeler que tout mouvement d'émancipation connaît en retour un mouvement contradictoire, un mouvement d'une certaine manière où les personnes qui étaient en situation de pouvoir et de privilège, en fait, essayent de réinvestir l'endroit dont elles estimaient qu'elles étaient légitimement les occupants et les occupantes. Je pense par exemple à l'antiracisme qui voit en retour un suprémacisme blanc et les conquêtes féministes, et ça ne date pas d'aujourd'hui, hein, Yvan Jablanca l'a très bien dit, voit effectivement des hommes qui craintifs de perdre leurs privilèges, en fait, essayent de réinvestir des structures de masculinité traditionnelle. Je pense que c'est important quand même de dire que, enfin, je vous ai entendu tout à l'heure sur la question du fait que des hommes seraient en quête de l'amour des femmes. Les masculinistes ne sont pas en quête de l'amour des femmes, ils sont en quête de leur domination, c'est-à-dire que, enfin, ils souhaitent les dominer. Il ne s'agit pas vraiment pas d'amour, mais il s'agit de, enfin, voilà, quand on entend les propos.
Souvent, il y a des blessures plus profondes liées à l'enfance, des manques d'amour.
Alors, je me permets juste de continuer, c'est qu'il y a des blessures réelles de femmes, c'est-à-dire que les femmes sont, il y a un viol, une tentative de viol tous les 2 minutes 30 en France. Les femmes sont massivement tuées, hein, malheureusement, par des hommes, et donc ça, ce sont, enfin. Je fais vraiment une différence entre un ressenti d'homme qui aurait le sentiment de perdre un pouvoir et la situation réelle des femmes qui sont quotidiennement exposées aux violences sexuelles et sexistes et à des violences qui peuvent conduire à leur mort. Et ces craintes sont réelles. Et le fait que des femmes aujourd'hui investissent la sphère publique pour le dénoncer peut effectivement questionner des hommes qui ont l'habitude d'avoir le monopole sur la sphère publique, mais la réalité c'est que les hommes aujourd'hui détiennent la quasi-intégralité du pouvoir politique, économique et médiatique. Et ça, c'est pas seulement du ressenti, c'est chiffré, c'est documenté.
Hélène, auditrice de France Inter, nous dit « Je suis aberluée d'entendre que les hommes se sentent menacés alors qu'ils représentent une menace permanente pour toutes les femmes qu'ils nous asservissent depuis des millénaires. » Il est d'accord avec vous, Rokhaya Diallo. Que répondez-vous, Pierre Valentin?
Déjà, un chiffre pour équilibrer un peu tout ça. Je pense qu'il faut condamner... Moi, je fais pas partie de ceux qui condamnent les discours victimaires uniquement quand ils sont portés par les hommes. Je pense que, dans tous les cas, la victimisation, c'est faire gagner le bourreau une seconde fois en privant la victime de libre arbitre dans la durée. Ensuite, aux États-Unis, par exemple, en 2022, il y avait 4 fois plus de jeunes hommes qui s'étaient donné la mort eux-mêmes que de jeunes femmes. Alors peut-être que ça fait ricaner, peut-être que certaines militantes voient ça comme des bons chiffres à prolonger pour dans une conquête, une optique de rééquilibrage ou d'émancipation. On a cité Alice Coffin dans son ouvrage, elle appelle explicitement à l'éradication des hommes. Alors éradication,
c'est pas ce qu'elle dit.
Non physique, mais elle dit éradication.
Non,
et il faut qu'ils disparaissent de l'espace public.
C'est pas du tout ce qu'elle dit.
C'est absolument ce qu'elle dit, c'est la conclusion.
Moi je connais très bien le travail d'Alice Coffin.
Qui de l'homme ou de l'humanité succombera en premier? C'est la dernière phrase de son
ouvrage. Ce que dit Alice Coffin, c'est qu'effectivement dans ses lectures, elle a choisi de se concentrer en majorité sur les femmes, ce qui ne coûte rien à personne. Et par ailleurs, ce que vous dites, c'est très intéressant sur le fait que les hommes, le taux de suicide des hommes est très important. Ça montre bien que les hommes sont aussi victimes de la violence masculine. Parce que les hommes infligent de la violence aux femmes et se l'infligent contre eux-mêmes. Et effectivement, il y a un travail à faire contre la violence masculine puisqu'elle conduit à ce que les hommes se suicident et s'infligent cette forme de violence.
Comment expliquez-vous que ce soit précisément la génération la plus déconstruite, comme on dit, c'est-à-dire la nôtre, qui justement a les pires rapports entre sexes? Et comment c'est-il que ce soit précisément les pays...
Qu'est-ce que ça veut dire, les pires rapports entre sexes?
La guerre des sexes aujourd'hui est bien plus prononcée, évidemment, qu'il y a quelques décennies.
Qu'est-ce
dans les rapports
signifie,
hommes-femmes. Il y a beaucoup moins de couples, il y a beaucoup moins de jeunes qui font l'amour, il y a beaucoup moins de mariages.
C'est pas une guerre de ne pas faire l'amour. Il y a des couples qui ne sont pas nécessairement hétérosexuels.
C'est un peu
et
le thème
le
de l'émission
sur la guerre des sexes. Les personnes qui meurent le plus des violences masculines, ce sont les femmes.
on va continuer à avoir ce débat. On va un peu sortir du débat du masculinisme et se demander s'il y a un débat ou une crise de la masculinité aujourd'hui. Qu'est-ce qu'un homme aujourd'hui ? Est-ce qu'il faut qu'il soit construit, déconstruit ? Est-ce qu'il subit des injonctions contraires ? Il y a ce sondage IFOP, par exemple. 9 femmes sur 10 préfèrent que les hommes fassent le premier pas. Mais est-ce qu'ils peuvent encore le faire ? Par exemple, au bureau, dans la rue. On va être en ligne avec un coach en séduction qui apprend aux hommes à ne plus être timides, ne plus être timide, est-ce déjà un conseil réactionnaire, si je puis dire ? Faut-il les encourager ? On continue à débattre de savoir ce que c'est qu'un homme.
Il y a quelque chose qui bug dans la manière dont il s'adresse à nous.
Non, bon.
Des printemps, c'était Gatien et Barbalo. Il est midi 21 sur France Inter. On continue à débattre, à s'interroger de l'essor du courant masculiniste. Faut-il y lire une crise de la masculinité, voire une féminisation de la société ? On en débat avec la sexologue, thérapeute de couple Thérèse Argot, avec Pierre Valentin, essayiste, auteur de Comprendre la révolution woke, qui est désormais fondateur du média Transmission, Rokhaya Diallo, journaliste, militante féministe, Yvan Jablanca, historien qui explore les nouvelles formes de masculinité. Alors, vous avez été très nombreux à nous écrire sur le WhatsApp de l'émission au 01 45 24 7000. Alain nous dit, par exemple, chez les masculinistes, il y a beaucoup de gens qui sont frustrés parce qu'ils n'arrivent pas à conquérir les femmes qu'ils désirent et au lieu de se poser des questions sur eux-mêmes, ils préfèrent rejeter la force sur les femmes. Et Pierre-André dit, je ne comprends pas ce que ces alpha masculins cherchent, qu'est-ce qu'il leur manque ? Moi, je me sens très bien en tant qu'homme. Et nous sommes en ligne avec Clément Pépoc, qui est coach en séduction. Bonjour Clément.
Bonjour Paula, bonjour à tous.
Vous proposez une reconnexion à la souveraineté masculine. Pour vous, eh bien, les hommes sont souvent perçus comme trop gentils, on peut le dire. Qu'est-ce que vous leur proposez pour reprendre confiance en eux et aller eh bien, oser vers la femme ?
Ma méthode ne repose pas sur des techniques de séduction classiques, on va dire, mais sur un travail vraiment plus profond, une reconnexion à la souveraineté masculine, je dirais. Aborder les femmes naturellement, créer des conversations authentiques et captivantes, par exemple. Attirer des femmes qui leur plaisent vraiment, sans forcer ni jouer de rôle. À l'heure où la virilité est floutée, je propose une autre voie, plus humaine, plus consciente et plus assumée.
Qu'est-ce que vous pensez du masculinisme pour vous ? Est-ce que c'est un pendant au féminisme ? Qu'est-ce que vous en pensez ?
Je ne fais pas de la théorie. J'écoute ce que vivent les hommes sur le terrain.
Alors justement, les hommes, est-ce qu'ils osent encore, par exemple, draguer dans la rue, draguer au bureau? Est-ce qu'ils osent aller vers la femme?
De plus en plus, contrairement à ce qui se faisait il y a 5 ans. Ça revient petit à petit, mais c'est vrai que le climat social est très tendu. Et donc, ça peut être compliqué.
Est-ce que vous leur dites « prends confiance en toi » C'est quoi, par exemple, si je vous appelle en disant « j'y arrive pas, voilà, Clément, aide-moi », qu'est-ce que vous leur dites?
Déjà, on va mettre des mots sur leur mal-être. Je vais nommer les erreurs. Je vais faire émerger une prise de conscience. Je vais faire travailler sur eux. Mm-hmm. Ensuite, je vais les faire déjà adopter. En fait, le manque de confiance vient d'un manque de compétence. L'homme, s'il n'est pas confiant et qu'il a peur d'aller vers une femme et d'être bon en séduction, de s'améliorer et de se servir de la séduction comme moyen de développement, c'est parce qu'il manque de compétences. Et à partir du moment où tu apprends ces compétences-là, alors tu deviens de beaucoup plus confiant.
Retrouver la confiance. Merci Clément Pépoc. C'est vrai que sur Internet, on voit de plus en plus de coachs en séduction donner des tutos pour effectivement que l'homme retrouve sa souveraineté masculine. Yvan Jablonka, qu'est-ce que ça vous évoque de retrouver sa souveraineté masculine ?
Il y a des féministes tout à l'heure qui ont été citées et critiquées parce qu'elles étaient trop radicales, mais je pense qu'il n'y a pas de mouvement d'émancipation sans radicalité, sans exigence d'égalité, de liberté, de dignité. Inversement, les masculinistes pensent qu'ils ont en quelque sorte un droit au sexe, c'est-à-dire ils réclament un accès direct et gratuit au corps des femmes, comme si celles-ci étaient leur propriété ou de simples objets. Et on le voit dans un certain nombre de déclarations qui assimilent les femmes à des voitures ou à d'autres objets de prestige. Il me semble que dans cette analyse, il y a quelque chose de profondément faussé et qui va très au-delà de la simple psychologie ou de la difficulté à draguer. La question, c'est qu'un certain nombre d'hommes jeunes, notamment dans le mouvement incel, puisqu'il y a beaucoup de jeunes, d'hommes
très jeunes. Alors, rappelez-nous ce que c'est que les incels.
C'est des hommes qui se jugent involontairement célibataires parce qu'ils n'auraient pas accès donc au marché de l'amour ni au corps des femmes. Et il me semble que dans cette mouvance incel, il y a tout simplement un décrochage, une déconnexion totale vis-à-vis de la marche du monde. C'est-à-dire que ce sont des gens qui, avant même de ne pas savoir draguer, tout simplement ne mesurent pas la révolution de l'égalité et le fait que plus aucune femme, je crois, n'a envie d'être traitée comme un objet, une voiture ou un couteau de poche. D'ailleurs, ce que disait le coach en séduction qu'on a écouté tout à l'heure était intéressant. En effet, il utilise le terme de souveraineté. C'est un terme qui n'est pas choisi au hasard. C'est un terme qui vient de la théorie politique. Il ne s'agit pas simplement d'aider les hommes à mieux draguer. Il s'agit aussi de rappeler, je cite, leur souveraineté, comme à l'époque au XIXe siècle où seuls les hommes avaient le droit de vote. Et ce vocabulaire politique montre bien qu'on est dans une forme de réaction antiféministe qui, au-delà des questions de séduction et de sexualité, vise à rappeler le privilège des uns au détriment des autres.
Alors, on va rappeler les chiffres, parce que c'est vrai que quand on regarde dans le rétroviseur, les changements et l'égalité entre les femmes et les hommes, si tant est qu'il y a encore une égalité aujourd'hui, eh bien, ça date d'il n'y a pas longtemps. Avant 65, les femmes ne pouvaient pas travailler, ouvrir un compte en banque, signer un chèque sans devoir demander l'autorisation du mari. En 67, l'interdiction de la pilule est enfin levée. L'IVG est votée en 75, l'égalité salariale. Et aujourd'hui, eh bien, une femme peut, si elle le souhaite, commander du sperme au Danemark, par exemple. Effectivement, l'homme n'est plus... Je vous vois lever la main, Thérèse Argaud, je vais m'arrêter là. Est-ce qu'effectivement, on peut penser que pour l'homme, il y a eu quand même beaucoup de bouleversements majeurs qui font qu'il y a une petite période de résistance comme ça, mais qui peut être une pause et qu'il va y venir?
Oui, bien sûr que beaucoup d'hommes sont déstabilisés, mais je voudrais juste vous partager une observation que je fais dans mon cabinet. Ça veut dire que dans le secret là d'un cabinet, qu'est-ce que j'entends? Ça fait plus de 15 ans que je reçois des femmes et des hommes, et beaucoup de femmes aussi qui me partagent être amoureuses d'un autre homme que leur conjoint. Elles ont un amant, et quand je leur dis parlez-moi de cet amant, le premier mot qui revient toujours c'est il est viril. Elles vont chercher un homme qui incarne cette virilité. Et ça, c'est interpellant quand même. Alors quand je leur dis ça veut dire quoi être viril, c'est là que c'est intéressant. Elles me disent, il a confiance en lui.
il ose, il assume, il entreprend. Et c'est ça qu'on attribue à une virilité. Et je trouve que dans un beau sens du terme, moi j'aime bien parler vraiment d'une posture d'adulte, parce que l'adulte a cette confiance en lui. C'est-à-dire que ce n'est pas celui qui va s'écraser, ce n'est pas celui qui va non plus dominer, mais qui a une juste confiance en lui et qui permet le rapport amoureux, le rapport sexuel. Et on voit qu'il y a une recherche en fait d'avoir des hommes adulte. Peut-être que le mot, c'est adulte, exactement comme une femme peut avoir les mêmes attributs quand elle assume, quand elle a une posture d'adulte, tout simplement.
Mais on peut être viril et être un gentil garçon.
Oui, eh bien, je pense que la personne virile est profondément gentille dans le très beau sens du terme, pas le gentil dans le sens péjoratif, dans une vraie bienveillance envers l'autre. Et ce que je veux dire par là, c'est que dans les rapports sexuels et dans les rapports amoureux, il y a un peu ce besoin de ces jeux de séduction et de cette virilité, de cette féminité. On le voit bien, par exemple, quand tu vas boire un verre avec un homme qui paye le verre. Aujourd'hui, il y a plein de garçons qui disent « Ah ben non, c'est moitié-moitié. » Ben, je suis désolée, la majorité des femmes, on n'aime pas ça. On préfère qu'il assume en disant « Je t'invite. » Et ça ne veut pas dire qu'il y a une dette sexuelle. Ça veut simplement dire qu'il y a une espèce de... Oui, je vois le ciel. Non, ça ne veut pas spécialement dire ça. Si on a confiance en soi, pardon, moi... En tant que femme, j'ai assez confiance en moi pour qu'un homme qui m'invite et qui me donne, qui, je sais pas, qui me paye le verre, ça veut pas dire que je devais lui devoir du sexe. Par contre, moi, quand je viens au verre, souvent, je m'apprête, ça coûte cher, les bijoux, les vêtements, les apparats de la séduction. Et il y a un jeu qui rappelle un petit peu ses besoins de virilité, de féminité. Et c'est là, en fait, que ça s'entrechoque avec ces mouvements qui veulent remettre ça en question.
Ce que vous dites, ça rappelle tout simplement que la féminité comme la masculinité sont des constructions sociales et qu'on les performe, effectivement. On les performe, on joue à être une femme en se maquillant, en s'habillant d'une certaine manière, en jouant la personne qui a besoin qu'un homme assume financièrement les frais qui sont liés à la rencontre. Et donc tout ça, c'est construit. Et je pense que ce qui est compliqué à comprendre pour les hommes aujourd'hui, c'est que en fait, ils viennent de millénaires d'histoire où ils ont appris que tout ce qui était relatif à ce qui était considéré comme le masculin, quelque chose de naturel, alors qu'en réalité, ce n'est pas le cas. Et aujourd'hui, ce qui se joue, c'est la perte d'un pouvoir, la perte d'un privilège. Et moi, je suis assez étonnée en fait du temps qu'on peut passer à s'inquiéter du ressenti des hommes qui seraient un peu perdus, quand on sait quand même que les femmes, massivement, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais c'est quand même important de le rappeler, sont tuées par des féminicides, et que 97% des personnes qui sont mises en cause dans des agressions sexuelles sont des hommes. Donc ça veut dire que la question pour moi, et je reviens aussi sur ce que vous disiez par rapport à la terminologie que vous stigmatisez comme étant victimaire, être victime de quelque chose, en fait, ce n'est pas une tare et ce n'est pas une honte. Je pense que c'est important de rappeler qu'on est victime d'un système d'oppression qui a été construit par le patriarcat, qui a été construit sur des millénaires, et que ce n'est pas un tort que de dénoncer. Les féministes dont vous parlez tout à l'heure, en fait, elles ont juste le tort de centrer la narration sur leurs propres conditions et de ne pas considérer que les hommes sont leurs priorités.
Mais est-ce que
c'est
dans
pas
le
grave,
jeu
en fait,
amoureux, il n'y a pas, effectivement une construction qui faudrait, je ne sais pas, préserver. Un couple sur deux finit par un divorce,
oui,
par
bon,
exemple.
Déjà, la construction, elle est hétéro-patriarcale. Hein. Tous les couples amoureux ne sont pas constitués d'un binôme homme-femme. Voilà. Il y a plein de femmes qui ne sont pas non plus intéressées par le couple. D'ailleurs, il y a des discours aussi qui montent où des femmes ne sont pas nécessairement intéressées par un couple où finalement elles ont une place qui n'est pas aussi confortable que celle qu'elles peuvent avoir dans d'autres configurations. Je pense qu'il faut qu'on apprenne tout simplement à construire le couple dans l'égalité et dans une féminité qui n'est pas forgée par des siècles d'oppression. Une masculinité aussi qui peut se réinventer on a plein de choses à inventer. Je pense qu'on peut aussi voir les choses positivement et voir les choses comme l'occasion de ne pas s'enfermer dans des clichés finalement qui nous oppressent tous en fait.
Pierre Valentin.
J'aimerais essayer de poser les choses dans un contexte plus large, qui est que fin 90, début 2000, les deux, je dirais, grosses séries respectivement françaises et américaines, que sont Un gars, une fille et Friends, étaient une norme acceptée. Séries au sein desquelles femmes et hommes en prennent équitablement pour leur grade, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas forcément les mêmes défauts, mais ils en ont autant. Et, pas sur le coup, mais 10-15 ans après, les militantes néo-féministes misandres sont allées critiquer ces séries, non pas en disant que les hommes seraient maltraités dedans, ce qui est vrai aussi, on se moque d'eux, Jean Dujardin et a plein de défauts dans ces séries, évidemment, et parfois des défauts spécifiquement masculins. Et on s'est imaginé en quelque sorte qu'on pouvait faire une opération chirurgicale sur les hommes dans laquelle on pouvait gentiment enlever la tumeur cancéreuse que serait leur soif de virilité et ensuite en faire des espèces d'hommes déconstruits, tièdes, etc. En réalité, c'est pas du tout ce qui a eu lieu. Cette soif de virilité, elle n'a pas disparu. Elle s'est réfugiée dans les marges, dans la question du rap, dans la question de la pornographie, dans la question de l'islamisation, dans la question également de Andrew Tate. On a parlé de l'immense phénomène qu'il est, encore une fois, plus d'abonnés qu'Emmanuel Macron. Et donc, l'éradication, si vous voulez, de la discussion paisible et tranquille sur les différences hommes-femmes dans l'espace public n'a pas pour eu effet leur disparition, mais leur radicalisation dans les marges. Et dernier élément là-dessus, ces marges ne se contentent pas d'être des marges. Si on regarde l'évolution du rap, par exemple, en 15-20 ans, ça s'est complètement mainstreamisé dans un discours extraordinairement agressif et très taïtien, pour le coup, dans le rapport aux femmes. Et donc, ces nouvelles marges, beaucoup plus radicales que les normes d'hier qu'on a voulu éradiquer par néo-féminisme, nous reviennent à la tronche en figure de boomerang. Et je terminerai juste là-dessus. C'est une véritable tenaille entre les deux qui se nourrit. Et il y a une très belle phrase de René Girard dans le bouc émissaire qui résume bien, je dirais, leur besoin l'un de l'autre. Qui est « ils tiennent à leur querelle, car ils ne tiennent que par elle ».
Alors, évidemment, Yvan Jablonka, vous allez réagir à la déclaration de Pierre Valentin. Les auditeurs réagissent aussi. Olivier nous dit « bonjour, et si les masculinistes n'étaient pas simplement ce qu'on appelle des gros beaufs, pourquoi pas ?» Christophe dit « attention aux amalgames, tant que des femmes, comme votre invité, diront les hommes plutôt que certains hommes, la situation n'avancera pas ». Évidemment, on va parler de tout ça, on va se demander aussi si le masculinisme qui gagne du terrain, eh bien, ce n'est pas un courant aussi politique. Par exemple, les slogans « Ton corps, mon choix, retourne dans ta cuisine » ont augmenté de 6000% avec l'élection de Donald Trump. Le conservatisme est-il de retour ou le wokisme est-il allé trop loin? On en débat après « Watch Amin » de Green Tipping.
Say what you mean to me. What you mean, what you mean? Say what you mean to me. Give it to me. You gotta let me know what I am doing, where I am going wrong. Stop licking us. Tell me to my face, here for it now. So show me what you made of. Show me what you made of. Show me what you made of. What you made of. You think I care about your opinions? I think they valid, but they can't do me harm. I'll take it on. Your criticism, then dust it off. Yeah, once I feel I'm wrong, so show me what you made of. What you mean, what you mean? Say what you mean to me. What you mean, what you mean? Say what you mean. Good thoughts and it shows, by the bits they grow. Jealousy no more, that must have been controlled. Green eyes and they bold, coming from my bowl. Grip, grip, it holds, the certain chest it grows. We drip, drip, yeah, we pouring, the monster been ignoring. We sleeping, yeah, we snoring, it's knocking, it's important. Let the rhythm raise your thumb and see, yeah, yeah. So show me what you made of. 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 You think I care about your opinions? I think they valid, but they can't do me harm. I'll take it on. Your criticism, then dust it off. Yeah, once I feel at home, so show me what you made of.
Le débat de midi. Paola Puerari sur France Inter.
Midi 37 sur France Inter, vous êtes toujours au débat de midi. On se demande si le masculin traverse une crise, si le masculinisme est une réponse au féminisme et si la virilité a encore sa place dans le monde. Oui, nous dit Nicolas, c'est quoi être viril aujourd'hui? Pour ma part, je suis traditionnelle et protecteur, je prends soin de ma femme. Je pense qu'il faut prendre en charge sa charge mentale, c'est ça, être viril pour moi. Isabelle nous dit, oulala, non, personnellement, chez un ce que je cherche en premier, c'est un homme gentil, surtout pas viril. Virgile nous dit, le masculinisme ne serait-il pas une réponse au féminisme? Et Thomas, les féministes ont fait la même erreur que les écologistes, être outranciers. On voit bien que cette question sur la masculinité, eh bien, déchire les auditeurs. Yvan Jablonka, on s'est posé la question aussi de savoir si ce courant était politique. On a vu qu'avec l'arrivée de Donald Trump, mais aussi d'Elon Musk, qui se trimballe toujours avec son fils et jamais sa fille, eh bien, ça pose des questions. Est-ce qu'on est vers un mouvement conservateur puisqu'ils ont pris le wokisme comme ennemi?
Pierre Valentin disait tout à l'heure qu'il fallait élargir chronologiquement le débat. Je crois qu'il a raison. Et donc, c'est pour ça que je propose de remonter au code civil promu par Napoléon au début du 19e siècle, qui, d'un point de vue politique, n'était pas très différent de la sphère MAGA, de Trump et de ses émules, hein, du point de vue du masculinisme.
MAGA, ce sont donc les Make America Great Again, la base populiste électorale de Donald Trump.
Et en 1804, le code civil proposait que les femmes obéissent en échange de la protection des hommes. Un deal sexuel et amoureux, en quelque sorte, qui donnait aux uns le droit de commander et aux autres la possibilité d'être protégés. Et je crois que ça, c'est une matrice très profonde qu'on retrouve aujourd'hui dans les coachs, dans le coaching en séduction. Et on voit bien qu'il y a une matrice politique qui est derrière toute cette réflexion sexo-séductionnelle. Et ce projet politique, il était résumé par ce terme de souveraineté. Rendre la souveraineté aux hommes. Il me semble qu'un des enjeux de notre début de siècle, c'est au contraire d'inventer une nouvelle civilité sexuelle, promouvoir des nouveaux scripts, renverser les genres à certains moments du phénomène de séduction ou de rencontre. Rappeler que l'égalité, ça peut être sexy. On peut être sexy pas simplement en payant l'addition, mais il y a aussi d'autres formes de mise en scène virile ou féminine. Quand j'entends que aujourd'hui le problème c'est de savoir ce qui paye l'addition, je crains qu'on entre dans un monde qui soit celui des régulations utopiques entre Barbie et Ken, si vous voulez. C'est pas simplement ça les questions de séduction. C'est aussi la prévalence des violences sexuelles, y compris dans les dating et les applis. C'est aussi la néo-misogynie qui sous-tend tous ces rapports de séduction. Et on le voit aussi dans le domaine politique. Il y a un débouché, je crois, politique, avec tous ces hommes qui sont soit des manias, soit des milliardaires, et qui se mettent en scène dans leur néo-virilité. On sait bien qui a le pouvoir politique, économique, militaire. Et ici, évidemment, les femmes sont renvoyées à leur caractère subalterne.
Et on se souvient de Mark Zuckerberg, propriétaire de Meta, c'est-à-dire les réseaux sociaux Facebook, qui avait dit il faut libérer la testostérone dans la société, libérer aussi l'agressivité. Il pose régulièrement en train de faire de la musculation. Ça vous choque, Pierre Valentin ?
Oui, bien sûr. Ça peut être des discours très réducteurs, surtout que là, on parle quelque chose de purement hormonal entre guillemets. Donc l'aspect culturel est d'un seul coup écrasé. Moi, ce qui m'intéresse, c'était vraiment cette notion de tenaille et de lister, je dirais, les points communs structurants entre la misandrie actuelle et la misogynie historique qui est exacerbée avec les mouvements masculinistes. Un point commun, par exemple, c'est la haine du mariage. Dans les deux cas, le mariage est perçu comme une espèce de piège que l'autre camp, de l'autre côté de la guerre des sexes, viendrait tendre. C'est ce que dit Andrew Tate, c'est ce que disent beaucoup de néo-féministes misandres aujourd'hui. Et j'aimerais relier ça plus globalement à notre culture, je dirais, libérale, qui fait de l'indépendance le maître mot et de la dépendance quelque chose de pathologique. Christopher Lash en parlait dans La culture du narcissisme en 79. Il expliquait que l'idée de tomber amoureux, déjà tomber amoureux, on a l'impression qu'on trébuche dans l'amour, on perd sa maîtrise, on perd son contrôle. Aujourd'hui, à force d'entendre la formule personne toxique, c'est en voie de devenir un pléonasme, on préfère être seul que mal accompagné. Donc je pense que à la fois le néo-féminisme misandre et le masculinisme aujourd'hui captent cette tendance-là, la radicalisent et que ça culmine dans cette haine du mariage qui est en fait cette peur de l'altérité.
C'est Boris Cyrulnik qui disait tomber amoureux et se réveiller attaché à Rokhaya Diallo.
Exactement.
Je récuse vraiment ce terme de néo-féministe misandre. Il faut vraiment rappeler que ces personnes que vous désignez comme telles sont féministes et s'inscrivent dans une histoire et dans un continuum qui était déjà présent auparavant dans ce qu'elles défendent aujourd'hui, les personnes que vous critiquez. On trouve des choses très très similaires chez Christine Delphi, qui était une féministe illustre qui a commencé à travailler dans les années 1970. Alice Coffin n'appelle aucunement à l'éradication des hommes. Je pense que c'est vraiment faux et je vous ai pas interrompu. Je remarque que je suis systématiquement interrompue, contrairement à toutes les personnes qui sont autour de la table, c'est la réalité. Je pense que chacun peut le constater. Je pense que faire un parallèle entre le masculinisme et la pseudo-misandrie, c'est une erreur, même de compréhension en fait de l'anthropologie, puisque en réalité, les femmes n'ont absolument aucun pouvoir de nuisance. Les seuls hommes aujourd'hui qui sont capables d'entraver les droits des femmes sont des personnes comme Donald Trump, sont des personnes comme Jair Bolsonaro, qui ont été au pouvoir et qui ont dirigé pour l'un les États-Unis, pour l'autre le Brésil, et qui ont mis en œuvre des politiques qui ont destitué les femmes de droits qu'elles ont acquis tout au long de l'histoire. Je pense que c'est important de rappeler que les femmes, lorsqu'elles critiquent les hommes, et même lorsqu'elles énoncent une détestation dans des livres, c'est une détestation qui ne peut exister que sur le papier, puisqu'en fait, elles n'ont pas de pouvoir politique leur permettant de nuire de manière concrète aux hommes. Je pense que c'est vraiment problématique que de considérer que le masculinisme peut avoir une équivalence avec ce que disent aujourd'hui les femmes. Et je crois vraiment qu'il est important de rappeler combien ce qui se passe aujourd'hui est une réaction de la part d'hommes qui souhaitent en fait garder le pouvoir et rester en haut de l'échelle de la domination politique.
Alors, il y a les hommes qui veulent rester en haut de la domination et les femmes qui veulent rester dominées. Elles existent aussi sur les réseaux sociaux, ce mouvement des femmes des tradwives, les femmes au foyer. Il y en a, existent en France aussi. On pourrait citer cette militante d'extrême droite, Thaïs Descuffon, qui pense effectivement que la femme doit se faire désirer, qu'elle ne doit surtout pas coucher le premier soir et que si elle veut un gentil mari, il faut être un petit peu soumise. C'est Thérèse Argot, ça existe aussi.
Oui, ça existe. Et d'ailleurs, elles ont beaucoup de succès sur les réseaux sociaux, comme Instagram. Il y a
beaucoup auprès des hommes.
Oui, mais aussi des femmes. Il y a un petit rêve de la petite maison dans la prairie, comme ça, cette tradwife qui traîne encore dans l'esprit et dans le cœur de certaines femmes. Alors, en réalité, il y a quelque chose de beau, parce qu'on peut aimer s'occuper aussi de son foyer, et c'est pas mal, on n'a pas à le juger négativement. Bien sûr que c'est incomplet, parce que je pense qu'une femme, elle ne peut pas se limiter seulement à la sphère domestique, et elle a aussi un rôle à jouer dans la société. En tout cas, moi, j'encourage vraiment les jeunes femmes à prendre ce rôle-là, mais sans dénigrer ce rôle de la femme traditionnelle, d'aimer faire son pain, de s'occuper de ses enfants. Et on voit, c'est vrai que ce retour très fort, peut-être aussi, là, il y a peut-être un effet de balancier, parce que en tant que jeune femme, on a hérité d'un féminisme qui parfois dénigrait ou méprisait ces mères au foyer, qui pourtant peuvent être aussi épanouies dans ce qu'elles vivent à ce moment-là dans leur vie.
Alors, nous regrettons la fin de cette émission, parce qu'effectivement, il y aurait eu énormément à dire et à débattre sur vos propos. Malheureusement, il est midi 45, c'est l'heure de vous remercier pour ce débat. Merci à Yvan Jablanca, Rokhaya Diallo, Thérèse Argot et Pierre Valentin. Le débat de midi, c'est fini pour aujourd'hui et demain matin, on s'attaque à un sujet qui fâche. On parle de la réforme de l'audiovisuel public. Une BBC à la française avec France Télévisions, Radio France et l'INA sous une même holding, révolution ou destruction. Les syndicats crient à la fusion déguisée, aux suppressions d'emplois et à l'uniformisation de l'information. L'indépendance de l'audiovisuel public est menacée. Participez dès maintenant au 01 45 24 7000. Merci à mon équipe, à la technique aujourd'hui, c'était Adèle Caglar et Achille Akem.